Que nous dit le guide des métiers de celui de DRH, directeur des ressources humaines? Il est chargé d'élaborer et de mettre en place une politique d'organisation des ressources humaines au sein d'une organisation. Jusque-là, c'est à peu près cohérent. Mais quand l'organisation en question est l'éducation nationale, ça se complique un peu. Plus gros employeur de France, le ministère a annoncé la semaine dernière un deuxième volet de réforme qui concernera cette fois les profs et non plus leurs élèves. Mais évidemment, tout ça a un lien. Formation initiale, formation continue, évaluation et valorisation du métier d'enseignant. Nous en parlons donc avec celui qui sera chargé de mettre tout cela en place. Bonjour Édouard Geffray.
Bonjour.
Et vous êtes le directeur des ressources humaines, le DRH de l'éducation nationale. Donc vous êtes le DRH du 6e plus gros employeur au monde.
C'est possible, je n'ai pas fait le compte, mais certainement.
Après les chemins de fer italiens ou l'EDF chinois par exemple, vous avez combien de personnes donc,
Alors, avec l'enseignement supérieur, c'est à peu près 1 200 000 personnes, dont 850 000 professeurs dans la partie éducation nationale.
Avec beaucoup de statuts différents, tout ça est très complexe. Votre parcours en deux mots, vous avez fait Sciences Po, vous avez fait l'ENA, vous êtes au Conseil d'État. DRH, bon, dans une entreprise, un bon DRH est connu des salariés et ça porte leur héros ouverte, mais la plupart des profs ne savaient même pas qu'il y a un DRH dans l'éducation nationale.
C'est parce qu'en fait, pour eux, l'échelon de gestion, j'allais dire le plus immédiat, c'est le rectorat. Et quelque part, le DGRH d'éducation nationale, c'est plutôt une DRH de type, entre guillemets, groupe. C'est-à-dire que c'est là que vont se définir les grands axes de mise en œuvre des orientations politiques définies par le ministre.
Alors, entre autres, le grand chantier qui s'annonce est celui de la formation des professeurs, qu'elle soit initiale ou continue. Jean-Michel Blanquer en fait une priorité dans les mois qui viennent. Le même Jean-Michel Blanquer, entre parenthèses, qui était directeur général de l'éducation nationale, donc numéro 2 auprès de Luc Chatel, quand la formation initiale a été supprimée, quand les IUFM ont fermé, c'était il y a une dizaine d'années. Il fait son mea culpa alors, Jean-Michel Blanquer?
Non, c'est pas du tout une question de mea culpa, c'est une question d'évolution progressive d'un modèle. La formation initiale des professeurs n'a jamais été interrompue. Simplement, le modèle a évolué et progressivement, on est passé à ce qu'on appelle aujourd'hui les ESP, c'est-à-dire les écoles supérieures du professorat et l'éducation, qui est une formation en fait qui est assurée par les universités. Et la question aujourd'hui, c'est qu'après quelques années de vie de ce modèle, le point d'équilibre doit, le cas échéant, être un peu ajusté pour assurer une meilleure formation.
Mais en tout cas, vous êtes rendu compte qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des professeurs qui, en tout cas ceux qui avaient le concours, sont retrouvés 18 heures à travailler dans des établissements sans formation pratique du style « j'ai le concours en août et je suis prof en septembre ». Et vous avez réalisé que quelque chose ne fonctionnait pas. Et qu'est-ce que vous voulez changer ?
Alors, d'abord, il y a plusieurs choses. Alors, c'est pas je suis recruté en juin et je fais 18 heures en septembre. Ils ont ce qu'on appelle un demi-service, d'abord, premier élément.
Beaucoup de décharges d'enseignement, en tout cas.
Non, c'est un demi-service. C'est-à-dire qu'ils sont fonctionnaires stagiaires. Donc, ça veut dire qu'ils vont être devant les classes à mi-temps. L'autre moitié de leur service est en fait sous forme de formation, donc dans ces fameuses ESP, donc à l'université. Et avec un système de tutorat, à la fois dans les ESP et dans les établissements. Donc ça, c'est le point de départ. Après, la question, c'est de savoir si ça, aujourd'hui, c'est totalement satisfaisant. Ce que le ministre a observé, et ce que tout le monde observe, c'est qu'aujourd'hui, on a besoin d'améliorer les choses sur un certain nombre de directions. D'abord, son constat, donc il y a eu un rapport qui a été fait, qui s'appelle le rapport Filâtre, qui a été rendu au ministre il y a quelques jours. Et ce rapport, qu'est-ce qu'il constate? Il constate notamment que, en dépit du fait que ces professeurs sont déjà en partie sur le terrain, cette dimension, j'allais dire justement, pratico-pratique, n'est sans doute pas encore assez développée, notamment dans les échanges entre pairs. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas toujours suffisamment d'espace pour se réunir entre eux, confronter leurs pratiques à la fois entre eux, ce qui est toujours intéressant, et puis évidemment avec des aînés, entre guillemets, dans la profession. Donc il y a cette dimension-là. Il y a une dimension également sur la partie, j'allais dire, adossement à la recherche. On sait qu'aujourd'hui, la recherche fait des progrès immenses en matière pédagogique. On parle parfois dans certains domaines de sciences cognitives, etc.
Vous voulez les intégrer à la formation ?
Intégrer, c'est en tout cas adosser la formation à ces recherches-là et aux progrès qu'elles permettent. Et donc mieux en tenir compte dans la façon dont on forme nos enseignants. Donc voilà, c'est ça aujourd'hui le paysage. Il n'est pas négatif, mais il est améliorable.
Donc vous allez avancer les épreuves du concours. En tout cas, c'est pour l'instant une piste que vous étudiez sérieusement. Avancer les épreuves du concours à la fin de la licence pour que les 2 années de master soient uniquement consacrées à l'expérience pratique. Et là-dessus, je crois que les profs sont plutôt d'accord et voient ce que ça ça peut donner, mais en tout cas, l'expérience pratique est évidemment fondamentale. Question pour un DRH, quel statut auraient les profs pendant leurs deux années d'expérience pratique ? Vous parlez de fonctionnaires stagiaires, ils seraient payés comment ? Ils auraient toujours ce statut-là ?
Alors, d'abord, la question de positionner différemment en concours est une question qui est ouverte. Les deux ministres de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et de l'innovation ont lancé une mission qui a été confiée donc à deux personnes qualifiées pour savoir si ça vaut la peine et si oui, comment. Hein, donc ce n'est pas ni fait ni décidé. La mission rendra ses conclusions à l'automne et les ministres trancheront à l'automne. Mais ça fait partie des pistes qui sont régulièrement évoquées, notamment par la Cour des comptes, etc. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, en tout cas aujourd'hui, quand une personne est recrutée donc en fin de Master 1, puisque c'est aujourd'hui l'axe positionne le concours, pendant un an, elle est effectivement fonctionnaire stagiaire. Si demain, la place de concours devait évoluer, il faudrait sans doute réexaminer cette possibilité. Mais aujourd'hui, elle est fonctionnaire stagiaire.
Alors, ensuite, une fois la formation initiale acquise et une fois le concours passé, une fois installé dans une salle de classe, il faut de la formation tout au long de la vie, la formation continue. Et là, d'une académie à l'autre, c'est vrai qu'aujourd'hui, on va du tout au rien. Il y a des profs dans certaines académies qui disent qu'ils n'ont jamais, qu'on leur propose jamais ou que quand ils veulent s'inscrire, on leur dit que ce n'est pas leur tour, etc. D'autres académies qui en proposent beaucoup, je pense à Lille. Comment vous allez homogénéiser tout ça ?
Alors en fait, il y a deux enjeux. Il y a un enjeu, j'allais dire, de principe et puis un enjeu opérationnel. L'enjeu de principe, c'est qu'il faut qu'on établisse un continuum de formation entre la formation initiale, ce qu'on appelle dans le jargon la formation continuée, c'est-à-dire les trois premières années, en fait. Juste après que je sois sorti de ma formation initiale, il faut un accompagnement un peu plus. Et donc, ça s'appelle la formation continuée, donc les trois premières années, et puis ensuite la formation continue. Donc, tous ces chantiers-là, et vous voyez bien que c'est des briques successives, c'est des chantiers qui ont été donc ouverts par le ministre, qui s'inscrivent dans ce qu'on appelle un agenda social, donc ils vont être déployés tout au long de l'année 2019 pour construire ce continuum. Ça, c'est l'enjeu, j'allais dire, global, la politique globale. Après, vous avez un enjeu opérationnel qui est effectivement comment faire en sorte qu'au niveau des rectorats, et au niveau du terrain, se rencontrent, si je puis dire, les orientations nationales, les grandes politiques de formation, et puis le besoin métier terrain. Et là-dessus, le ministre a lancé une expérimentation il y a à peu près 2 mois, qui va assez substantiellement modifier les choses, qu'on appelle la GRH de proximité. Quelle est l'idée ? L'idée, c'est que chaque professeur doit pouvoir rencontrer un responsable RH dans son environnement immédiat, donc je ne sais pas, à 10-15 minutes de voiture, au niveau de sa circonscription, d'un bassin, etc., etc., pour pouvoir faire le point sur sa situation professionnelle de manière régulière, ou en tout cas quand il le souhaite, et que cet échelon-là devienne l'échelon de référence pour justement susciter le besoin de formation et faire remonter justement les besoins du terrain. Parce qu'aujourd'hui, cette connaissance fine du besoin de formation, on l'a pas toujours. Donc on est en train de repenser la GRH pour pouvoir précisément intégrer cette dimension-là à l'intérieur.
Pour l'instant, tout est très vertical et c'est vrai que même dans les intitulés des formations, les professeurs ne trouvent pas toujours ce qui les intéresse. Par exemple, enseigner la bienveillance, entre autres. Est-ce que vous allez vous inspirer de ce qui se fait par exemple pour l'éducation prioritaire, c'est-à-dire des formateurs qui vont sur place dans des établissements qui y restent assez longtemps? En fait, c'est ce qu'enseignent les sciences du travail et ceux qui l'expérimentent disent que c'est ce qu'il y a de plus efficace, mais forcément, il faut des moyens.
Alors, il y a effectivement, enfin, la formation, ça passe par tout un panel de choses en matière RH. Vous avez effectivement la formation directement sur site, vous avez la formation dans un tiers-lieu, ce qui est aussi une autre, ce qui a son utilité, c'est-à-dire que ça permet précisément à la personne de s'abstraire un petit peu de son quotidien. Vous avez également les outils numériques. On développe de plus en plus la formation donc, en distanciel, ce qu'on appelle en distanciel, c'est en ligne, avec un mix entre le distanciel et le présentiel, c'est-à-dire je vais suivre des formations en ligne chez moi pour mieux maîtriser certains enjeux, et puis je vais ensuite les confronter en situation professionnelle avec des pairs ou avec des formateurs. Donc aujourd'hui, ces outils-là, ils ont vocation à être tous convoqués, c'est une palette d'outils qui dépend beaucoup du besoin de formation, et pour ça, une fois encore, il faut le connaître, et une fois qu'on le connaît, il faut le satisfaire.
Donc remettre aussi, vous disiez, une proximité à un échelon local pour savoir de quelle formation ont besoin les profs. Et c'est vrai que si aujourd'hui les professeurs réclament des formations, c'est aussi parce que les différentes réformes scolaires ont été prises ces dernières années sans concertation, qui se retrouvent parfois avec des programmes incompréhensibles et qu'ils ont besoin d'une formation pour savoir comment les appliquer. Exemple souvent cité par les professeurs, la réforme du collège. Parmi les changements induits par cette réforme, les professeurs, notamment d'histoire géo, se sont vus signifier qu'ils ne devaient plus attaquer, entre guillemets, leurs cours par des thèmes, mais par des compétences. Par exemple, savoir extraire les informations d'un document, comme une lettre de poilu, par exemple, pour parler de la Première Guerre mondiale. Une prof, un jour, rencontre une inspectrice d'académie. Elle lui dit « J'essaie de faire comme on nous le demande. » Alors, j'ai commencé mon cours par une courbe. Et là, j'ai bien vu que tous les élèves ne comprenaient pas tout de suite, que chacun décryptait la courbe à son rythme ou pas du tout, etc. Et là, l'inspectrice lui dit « Faites 3 documents différents pour vos élèves. » Et puis, vous verrez ce que ça donne. Et la prof, qui a quand même de la bonne volonté, lui dit « Oui, c'est ce que je veux bien le faire, mais en septembre, je fais comment ? Je ne les connais pas, les profs. » Et là, même l'inspectrice du travail ne savait plus quoi lui dire. C'est-à-dire que plus on fait des réformes sans concertation et plus on aura besoin de formation.
Alors, vous avez deux choses différentes. Vous avez l'information sur les réformes et vous avez la formation proprement dite. La formation, ça peut être une formation d'approfondissement disciplinaire ou de mise à jour disciplinaire. Ça peut être une formation pédagogique sur des techniques pédagogiques. Ça peut être aussi une formation métier à l'évolution professionnelle. Parce qu'on a aussi beaucoup de professeurs qui deviennent ce qu'on appelle personnel de direction, c'est-à-dire chef d'établissement, proviseur, inspecteur, etc. Donc, il faut bien distinguer les deux. Lorsqu'il y a des réformes, ça relève plutôt de l'information. C'est-à-dire qu'on va expliquer aux professeurs, et d'ailleurs, de manière générale, aux équipes éducatives, ce qui change dans la façon d'organiser telle ou telle partie de la scolarité. Ça ne doit pas épuiser, entre guillemets, le sujet formation. Et c'est tout l'enjeu actuel, c'est là-dessus que le ministre a mis l'accent, c'est-à-dire ce qu'il a très bien dit, c'est l'information sur la réforme ne peut pas siphonner, si je puis dire, le besoin de formation. Et donc l'enjeu, c'est qu'à côté de ça, précisément, et ça répond à l'hypothèse que vous évoquez, les personnes puissent être formées, éventuellement à des techniques pédagogiques qui ont fait leur preuve ou qui ont évolué, éventuellement qu'elles puissent bénéficier d'un approfondissement disciplinaire, éventuellement si elles ont envie d'évoluer, qu'on puisse les accompagner dans cette évolution.
Donc ça fait plein de mesures à mettre en place et plein de bonne volonté. À vous entendre, tout va bien, mais c'est une réforme qui s'inscrit dans une réforme plus vaste de la fonction publique qui doit réaliser 30 milliards d'euros d'économies d'ici 2022. Donc comment allez-vous faire pour remettre de l'humain dans la formation, pour remettre des moyens dans la formation, et au détriment de quoi ?
Alors, d'abord, vous avez deux choses dans ce type d'hypothèse. Première chose, c'est comment vous utilisez les moyens que vous avez. Est-ce que vous utilisez de la manière optimale ou pas ? Et la deuxième chose, c'est ensuite...
Et ce n'est pas le cas aujourd'hui, alors ?
En tout cas, on pourrait faire différemment. C'est ce qu'on fait avec notre fameuse GRH de proximité. Le jour où vous mettez la personne au cœur, le but de la politique actuelle, c'est de mettre la personne au cœur de la gestion des ressources humaines et d'avoir un accompagnement de proximité. Donc, clairement, quand vous repensez les choses dans une démarche de proximité, c'est un redispatching, si vous voulez, de vos moyens, mais vous n'avez pas forcément besoin de créer des moyens nouveaux. Vous repensez les choses dans un sens différent. Premier élément. Deuxième élément, on a quand même la possibilité aujourd'hui de convoquer des outils qui sont des outils différents. Les outils numériques en sont notamment, je vous en parlais il y a 5 minutes. Tout le monde sait aujourd'hui, quand on fait de l'information, on mise, comme je vous le disais, à la fois sur le présentiel et le distanciel. Le présentiel est consommateur de ressources humaines et de temps, le distanciel l'est moins. Et puis ensuite, et ça c'est des politiques qui seront, menées en cadre de dialogue stratégique avec les rectorats, à partir du moment où il y a des priorités, eh bien, vous affectez les moyens et les ressources disponibles en fonction des priorités. La GRH en est une. La formation des professeurs en est une. Le ministre l'a mis en tête de l'agenda social 2018-2019. Donc, on fera en sorte que ça marche.
Alors, hors temps scolaire, c'est peut-être ça qui risque de ne pas passer auprès des profs. C'est-à-dire que vous, a priori, vous réfléchissez à faire ça en dehors des plages horaires de cours.
Alors, le ministre a indiqué il y a quelques jours qu'effectivement, il y avait des interrogations, ou en tout cas des pistes de travail sur tout ou partie de la formation en dehors du temps de face-à-face élève. Je rappelle que le temps de face-à-face élève n'est qu'une partie du temps de travail des professeurs. La formation, elle a lieu sur le temps de travail, simplement le temps de face-à-face élève n'est qu'une partie. Vous avez le temps de correction de copie, vous avez le temps des cours, vous avez le temps de relations pédagogiques, de travail en équipe pédagogique dans l'établissement, qui est très important. Tout ce temps-là est un temps de travail, il ne faut pas se borner à considérer qu'un professeur ne travaille que lors du face-à-face élève, ce n'est pas le cas, ça représente même pas la moitié de son temps de travail global.
Alors vous parlez de face-à-face élève, vous parlez de distanciel ou de dialogue stratégique, bref, vous parlez comme un DRH, ce que vous êtes.
C'est mon métier, en fait.
Et vous n'êtes pas prof et on ne vous le demande pas, mais dans quelle mesure êtes-vous en contact avec eux ? Dans quelle mesure est-ce que vous allez dans les établissements pour savoir ce dont ils ont besoin aujourd'hui ?
Alors, d'abord, la DGRH elle-même est composée d'un certain nombre de personnes qui, pour un certain nombre d'entre elles, d'ailleurs, sont professeurs ou anciens professeurs. Donc, on recrute régulièrement des professeurs, des personnels de direction, des inspecteurs, etc., qui passent dans nos murs. Ensuite, on va sur le terrain. Donc, moi, personnellement, depuis mon arrivée, quasiment une fois par mois, une fois tous les deux mois, je suis allé en académie. J'ai rencontré les recteurs, j'ai rencontré des équipes autour d'elles, etc. La troisième chose, c'est qu'on reçoit un certain nombre de gens. Moi, directement, j'en ai reçu un certain nombre. Je ne vais pas vous dire combien, mais enfin, un nombre non négligeable, quasiment tous les jours. Mes collaborateurs en reçoivent également de manière très fréquente. Donc, le besoin, il est là. Après, et ce que vous dites est très juste, et donc je rebondis dessus, l'un des enjeux, c'est précisément aussi d'intégrer les personnes dans les dispositifs qu'on conçoit. Donc, de raisonner en panel d'utilisateurs, entre guillemets,
utilisateurs finaux. Vous recommencez.
Mais c'est un peu ça l'idée. C'est-à-dire qu'on dit aux gens, on associe des gens, on leur dit, ben voilà, si on faisait ça, comment est-ce que vous voyez les choses? Qu'est-ce qui serait idéal pour vous? De quoi avez-vous besoin? Et notamment, ce petit échelon de GRH de proximité, il va aussi servir à ça, parce que vous avez de plus en plus de capteurs autour du professeur qui permettent de dire, vous savez, le professeur aujourd'hui, son besoin c'est ça, son besoin d'information c'est ça, ses attentes c'est ceci, ses questions c'est cela. Et puis après, on essaye collectivement, c'est un travail collectif, c'est pas que le DRH, collectivement on essaye de répondre aux questions qui se posent.
Donc vous leur parlez pas de référentiel bondissant quand vous parlez de la Coupe du Monde?
Non, j'appelle ça un ballon, moi.
Un ballon, mais parce que c'est vrai que quand on regarde certaines circulaires, etc., qui sont passées, on parle donc référentiel bondissant pour parler du ballon. Quand on va à la piscine, on se déplace dans un milieu horizontal, liquide, homogène. Vous sentez qu'il y a eu une déconnexion à un moment quand même?
Je crois que vous pouvez donner la date de cette circulaire, peut-être, qui ne doit pas être de 2018.
Je ne dis pas que c'est vous qui en êtes l'auteur.
C'est le premier élément. En l'occurrence, je ne risque pas, puisqu'en tant que DRH, je ne l'écris pas, mais accessoirement, je pense qu'il y a une question de temporalité qui n'est pas la temporalité actuelle. Ça ne vous aura pas échappé. Et la deuxième chose, c'est que, effectivement, quand on est, enfin, plus on est, proche du terrain, qui est l'un des enjeux de notre reconfiguration actuelle, moins on risque de perdre ce lien à la fois si précieux et si noble qui fait qu'on est au service de nos professeurs quand on est à la RH du ministère.
Alors Édouard Geffray, on a parlé formation des profs et ces professeurs qui, pour beaucoup aussi, sont formés sur le tas, comme on dit, et je pense aux contractuels. Comment aujourd'hui ils sont suivis et évalués surtout?
Alors, donc en termes de suivi et d'évaluation, on a le fameux système, alors qu'on appelait avant des inspections, qui a été en fait assez substantiellement repensé. Pour tout simplement parce que ce système ne donnait pas forcément lieu à des rendez-vous, réguliers. C'est-à-dire, il y avait une forme, tous les professeurs que vous connaissez vous diront qu'il y avait une forme d'irrégularité. Il pouvait parfois se passer plusieurs années sans qu'on rencontre un inspecteur, et puis d'un coup, on en voyait deux fois en trois ans, etc. etc. Donc on a repensé le système, et désormais, il y a des rendez-vous donc à distance sémaphorique. C'est-à-dire que tous les professeurs, à tel moment de leur carrière, savent qu'ils rencontreront un inspecteur en entretien individuel. Cet entretien ayant été repensé dans une logique véritablement de... Enfin, repensé ou en tout cas renforcé plutôt, parce que c'était déjà le cas avant, mais renforcé dans une logique d'accompagnement pédagogique. Deuxième chose, c'est que la relation avec le chef d'établissement, donc avec le proviseur, a également été repensée dans le même sens. Et ces rendez-vous périodiques sont en fait l'occasion d'un double regard, celui du proviseur et celui de l'inspecteur. Donc on a réinscrit tout ça, si vous voulez, dans un schéma plus régulier de déroulement de carrière. Et puis donc, parallèlement, on déploie également ce volet RH de proximité, qui permettra aux professeurs, cette fois-ci à la demande, d'avoir rendez-vous avec quelqu'un quand ils le souhaitent.
Bon, on continue cette discussion sur l'évaluation et beaucoup d'autres choses, et notamment ce qu'on appelle la crise des vocations, la valorisation que vous souhaitez du métier d'enseignant. Édouard Geffray, donc vous restez avec nous pendant le journal. On vous retrouve à 8h15.